Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Niptech, Niptech 452. Nous sommes le 10 avril 2024. Pour ceux qui savent compter, qui ont le calendrier comme ça dans la tête, on peut leur dire 2 juillet 1924 et ils disent « Ah, c'était un jeudi ». Eh bien oui, nous sommes mercredi. Alors, on va vous expliquer pourquoi on enregistre le mercredi et pas le mardi comme toujours. Et on va pour ça se tourner directement vers Mike, a.k.a. Side. Si vous avez la vidéo, vous voyez qu'il est tout bronzé, tout beau. Alors Mike, pourquoi est-ce qu'on enregistre un mercredi ?
Ben, bonjour à toutes et à tous, fait plaisir d'être là, oui. Eh ben oui, j'ai été faire ma tournée carbone, donc je suis allé à l'île Maurice. Vous savez, quand je suis parti en vacances là avec ma famille, et c'était vraiment cool pendant 9 jours. Ouais, l'île Maurice, c'est vraiment top, ça parle français, c'est cool, c'est 51% hindou, donc moi qui aime l'Inde et les temples, j'ai pu aller en visiter. Et c'est incroyable comme île. Et je vais vous dire pourquoi, parce que autant il y a des hindous, il y a aussi des chrétiens, catholiques, musulmans, et ils vivent tous dans une belle harmonie. Et c'est assez marrant parce que on parle souvent de Singapour en disant, bah voilà, il y a eu un des personnes il y a 50 ans qui a créé le Singapour moderne. Et c'est exactement la même chose à l'île Maurice. Il y a une personne qui a vraiment mis en place ce que l'île Maurice moderne est. Et donc, ça veut dire que c'est une des places bancaires de l'Afrique. C'est assez étonnant. Et c'est beau quand on voit une société comme ça, vivre bien entre eux, je trouve que c'est cool. Alors, j'ai pas amélioré mon bilan carbone, mais voilà, et je suis bronzé.
Tu fais plaisir. En tout cas, ouais, tu resplendis, tu es beau. Et il vient de l'île Maurice, de la Suisse, c'est-à-dire Zurich. Baptiste, comment vas-tu?
Salut Ben, salut Max, ça va bien. Je sais pas d'où tu sors ça. J'ai pas du mal à voir la comparaison, mais oui, à Zurich, toujours, ça va
le
bien.
Le centre bancaire de l'Afrique, écoute, alors pas de l'Afrique, mais du coup, le centre bancaire, quoi.
Oui, ouais, on peut dire ça, le centre bancaire.
Bon, on a de la concurrence. On a Luxembourg, on a de la concurrence.
Oui, il y a pas mal, oui, c'est vrai, c'est juste.
Mais bon, c'est vrai que Zurich, c'est le hub, c'est le grand hub.
Bon, il y a aussi Paris avec depuis le Brexit. Enfin bref, on ne va pas.
Oh, alors on n'est pas convaincu. Ok, d'accord.
Ah, pas du tout. Mais c'est parce qu'on n'est pas parisien. Désolé pour vous.
Mais non, ça va bien à Zurich. Je pars en week-end là, donc je suis tout content. J'ai une semaine courte. Enfin, je vais aussi voyager un petit peu, donc ça fait plaisir.
Et tu vas où ?
Et je vais à Lisbonne ce week-end.
Ah, ben ça c'est bien. Tu vas aussi pas améliorer ton bilan carbone. Moi, j'ai une question pour vous. Est-ce que maintenant, quand vous prenez l'avion, vous avez vos amis qui vous disent souvent « Ah ouais, ah, tu n'améliores pas le bilan carbone » ou les gens qui vous entourent. Est-ce que c'est quelque chose que vous entendez assez fréquemment ?
Alors, Moi, j'ai transitionné. Avant, j'étais à l'Uni. Maintenant, je travaille dans une banque. Je peux te dire que ce n'est pas pareil. Hein.
Tout le monde s'en fout parce que tout le monde le fait.
Donc, ouais, c'est assez… Ouais.
Mais c'est vrai qu'il y a une petite culpabilité, autant vous dire qu'elle ne dure pas longtemps. Mais c'est une super ville, Lisbonne, j'adore.
Mmh. Ouais, très curieux de découvrir, en effet.
Bon, bah écoute, ça fait plaisir. Alors, on ne croule pas sous les news, mais on s'est dit qu'on allait faire l'émission quand même. Il y a 2-3 trucs dont on aimerait parler, mais c'est peut-être moins un peu d'actualité, mais peut-être un peu plus aussi de recul. On s'est dit que ça faisait plaisir de varier un petit peu. Mais on va quand même commencer par quelque chose que j'ai raté, en fait, simplement, qui est XZ Utils, qui visiblement était alors un backdoor qui a mis la planète en péril. Mais j'ai pourtant ce genre de news en général, j'y suis, et là, j'ai pas vu. Et comme Mike était en train d'admirer les temples à l'autre bout du monde, voilà, non plus. Donc, Baptiste, restait plus que toi pour nous tenir au courant et nous dire à quoi on a échappé. Ou pas.
Ouais. Enfin, je me suis dit que c'était une histoire intéressante parce que déjà, juste l'histoire, tu vois, ça fait vraiment film d'espion. C'est vraiment assez intéressant. Et d'ailleurs, c'est probablement des espions. Donc, c'est littéralement une histoire d'espion, en fait. Et en plus, je pense qu'après, il y a des choses à discuter qui je pense, peuvent pas créer du débat, mais en tout cas, je pense qu'il y a une réflexion à avoir là-dessus. Donc, ce qui s'est passé, c'est dans toutes les librairies distributions Linux, il y a un outil qui s'appelle SSH, OpenSSH. Si vous avez fait un tout petit peu d'informatique ou de SSH, c'est la commande que tu utilises pour te loguer dans un autre ordinateur.
Tout à fait.
Donc, on a Linux. Okay. Ensuite, on a OpenSSH, donc qui est cette librairie. OpenSSH, ils utilisent ils ont une dépendance, donc en gros, ils ont besoin d'autres programmes pour fonctionner, parce que ça fait pas de sens de réimplémenter des fonctionnalités partout. Par exemple, tu veux faire donc ce exutil qui fait de la compression. Ben, tu veux pas avoir un logiciel qui fait de la compression différent pour tous tes logiciels. Non, t'en as besoin d'un. Tu le développes une fois, ça marche, t'en parles plus. Donc parfait. OpenSSH utilise exutils. Exutils, c'est un truc qui est utilisé qui est maintenu, enfin qui a été construit il y a quelques, enfin programmé il y a quelques années, et maintenant en gros c'était maintenu par un seul gars. Parce que ben forcément c'est un logiciel qui marche, tout le monde l'utilise, mais c'est un petit logiciel, c'est pas super compliqué, il y a pas un énorme besoin de maintenance. Voilà, un gars, ça suffit, qui le maintient sur GitHub. Et ben le gars, ben il a, c'est quand même un peu de boulot de le maintenir, il le fait bénévolement évidemment. Un Néerlandais, voilà, il fait ça. Et puis à un moment il a quand même un peu des soucis, il des fois il a pas le temps, il a des problèmes de santé mentale, il dit, enfin bref, il a pas forcément le temps. Et à un moment, il y a un certain Jiatan, ça c'est un nom un peu chinois, mais c'est important, mais pas vraiment, qui fait un fixe et qui dit, ah ben regarde, voilà, moi j'ai fixé. Et 2 mois plus tard, il propose un fixe, mais le fixe doit être approuvé par le mainteneur du projet. Et donc au fur et à mesure du temps, il fait plusieurs petits fixes comme ça sur ce projet. Toujours en tant qu'invité, si vous voulez, sans être le contributeur principal, et ça devait toujours être approuvé par ce Néerlandais. Le temps passe, Jiatan maintenant c'est le poteau, il aide et tout, et à un moment même, quand le mainteneur principal pouvait pas approuver, il y avait des bots, il y avait des gens qui disaient au mainteneur principal, hey, tu veux pas approuver ce truc, on n'a pas le temps, on en a vraiment besoin, regarde, c'est déjà fait par Jiatan, s'il te plaît, approuve. Et donc là, au bout d'un certain temps, le maintenant principal a dit, écoutez, moi, j'ai pas le temps, j'ai des problèmes, machin et tout. On va mettre Jiatan comme développeur principal du projet. Comme ça, bah, il peut s'auto-valider les trucs. Ça fait un moment qu'il m'aide. Il est super. Comme ça. Et donc, comme ça, Jiatan devient le développeur principal de XZutils. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait quelques commits où, de manière très discrète, il insère une backdoor dans le logiciel. C'est-à-dire qu'en fait, si tu as la bonne clé, et uniquement si tu as la bonne clé, tu peux accéder à la machine sans y être autorisé théoriquement.
Wow.
Donc vraiment, c'est un peu le god mode, quoi. C'est vraiment, quand tu as cet accès-là, c'est vraiment ultra puissant. D'autant plus que c'est comme XZutils, c'est dans SSH, et qu'OpenSSH, c'est dans Linux, c'est partout. En gros, tu as tous les ordis du monde qui sont affectés par ça. Pas les Windows et les Mac, mais enfin, tous les serveurs maintenant utilisent Linux. Enfin, c'est vraiment partout, c'est vraiment une très très grosse faille. Mais s'en souvient du coup la semaine dernière un développeur de Microsoft qui regarde XZutils, qui fait des, parce que c'était pour l'instant la version avec la backdoor, c'était que la nouvelle version qui n'était pas encore déployée partout dans les versions. T'as toujours plusieurs ce genre de logiciel, t'as toujours plusieurs versions, ouais. T'as les versions bêta, pre-release, enfin etc. et donc c'était encore dans cet état là et il voit qu'il y a une opération qui prend 0,25 secondes de plus que d'habitude et il se dit ça c'est pas normal. Il essaie de comprendre, il utilise des outils ultra bas niveau, parce qu'encore une fois, c'est vraiment du code, enfin, c'est du C, c'est du code assez bas niveau, c'est pas le genre de choses que, par exemple, moi, j'utilise tous les jours, quoi. C'est assez avancé. Il utilise ses codes, ses outils. J'ai utilisé une fois ça quand je faisais de la sécurité informatique, justement. Enfin, c'est assez avancé, quoi. T'as pas envie de faire ça. Et la plupart des gens qui te disent, ouais, je suis développeur, ils savent pas faire ça, quoi. C'est assez avancé. Et donc, il trouve qu'en fait, ça vient de cette faille-là, de cette backdoor. Enfin, bref, il arrive à remonter le truc. Mais, encore une fois, la chance qu'il ait vu que ça durait 0,25 secondes de plus que ce qui était prévu. Enfin, le hasard qu'il faut pour que le gars tombe dessus, c'est quand même assez impressionnant. Sachant qu'il n'était pas du tout en train d'auditer le code ou quoi, c'était vraiment par hasard que ça arrivait. Et donc voilà, il s'en est rendu compte, donc maintenant c'est patché. Tout de suite, les gens sont allés voir sur le GitHub de XZutils pour se rendre compte, ok, cette histoire de Jiatan, ils sont retombés sur les bots, parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ces gens-là qui demandaient aux choses d'être approuvées plus rapidement, bah, c'était des bots qui sont juste apparus une fois, mais qui après ont disparu. Enfin bref. Et donc on se rend compte qu'en fait, probablement, les experts disent que c'est probablement un nation state, donc un acteur étatique, qui a payé ce Jiatan pendant des années pour qu'il fasse ses commits, pour qu'il mette la backdoor, parce que c'est vraiment une attaque qui est quand même assez compliqué, et ça semble assez invraisemblable que ce soit des entreprises privées ou des petits hackers comme ça. Ça semble que ce soit quelque chose de public.
C'est vraiment la classe, quoi.
Ultra impressionnante, quoi.
Est-ce qu'on appelle ça du social engineering? Même pas.
Non, c'est du supply chain attack, ça s'appelle. C'est-à-dire qu'en fait, pour attaquer tu vas pas t'attaquer à Linux directement ou à trouver une faille dans Linux, mais tu vas infecter un truc qui est downstream de Linux.
Wow. Mais c'est sur plusieurs années en plus. Donc oui, ça, c'est vraiment un gouvernement, et probablement derrière cette personne, il y a peut-être plusieurs personnes.
Probablement, oui.
Pour essayer de vraiment comprendre et puis de faire step by step et essayer d'influencer. Mais c'était vraiment... Et on sait quand ce backdoor a été ouvert?
Oui, oui, mais et c'est ça qui est intéressant, c'est que tout, tout est public, tu vois. Parce que le.
Et donc, c'est resté ouvert un long moment?
C'est public. Je me souviens plus exactement, mais c'est pas assez longtemps pour que ça, ce soit pas encore dans les versions de production, si tu veux, dans les versions officielles de Linux. Okay. Donc, ça a jamais été vraiment, si je me trompe pas, dans aucune, tu vois, il y a aucun serveur vraiment qui a été exposé, ça a été trouvé.
Waouh.
Wow. Mais ce qui est dingue, c'est que tu te dis que potentiellement, c'est partout. Enfin, ça, c'est assez improbable que ce Jatan, ce soit la seule fois que ça arrive. Alors, c'est probablement arrivé souvent.
Prenons un peu le truc de l'autre côté, parce que moi, ça me surprend pas tant que ça qu'il y ait quelqu'un qui regarde 0.25. Si tu veux, il y a tellement de braqués en informatique qui regardent les performances, mais comme des maniaques, parce qu'ils en ont besoin, hein, toi, genre, je dis pas le high frequency trading et tout comme ça, mais toi, typiquement, il y a plein de personnes pour qui 0.25 secondes, c'est un vrai problème. Alors certains c'est dans leur tête, d'autres c'est moins de bonnes raisons, mais du coup c'est vrai que je me dis que la probabilité que ce soit vu à un moment ou à un autre, alors là il y a eu beaucoup de chance que ça soit vu tôt, c'est vrai, mais tu crois que tu arrives vraiment sur un truc qui est aussi distribué à passer à côté, c'est super bien essayé, puis c'est beau quoi, ça fait rêver, mais je me dis s'il y a un impact mesurable comme ça.
De ce que j'ai entendu, c'est que il semblerait que tout le monde dise que c'est un énorme coup de bol que le gars l'ait trouvé. C'est ce que oui. je.
Ce ouais, que parce qu'en fait, c'est ça. Parce que tu aurais vu, la plupart des gens, ils auraient vu, tiens, Open, enfin, SSH, il va plus lent que d'hab. Et puis que tu trouves parmi les mille, parce qu'il n'y a pas, évidemment, là, on sait. Alors, c'est facile, mais il y a tellement
y a de
trucs.
Packages, et... comme ça, ouais. c'est ça,
il fallait le code pour pouvoir rentrer. Il fallait avoir sécurité. Donc, ça voulait dire que. Le but n'était pas d'ouvrir à tout le monde. Le but était d'ouvrir à celui qui l'avait. Waouh.
Ce que je trouve intéressant, c'est que c'est pas le commit, tu vois. Parce qu'on dit souvent l'open source, c'est la transparence, créer la sécurité. Donc, c'est quand même que tu arrives, même pour les trucs hyper critiques, à un moment, ce commit, bon, bah, évidemment, il est au milieu d'autres trucs, c'est bien fait, mais toi, c'est que c'est tellement, c'est toujours. Des petits trucs que en fait, personne ne regarde. On dit oui, bien sûr, la transparence crée de la sécurité. À part que si personne ne regarde, la transparence, elle ne sert à rien. Quoi. Donc,
oui, mais dans l'autre sens, imagine que XAdutil, ça avait été un software propriétaire. Jamais ça aurait été
foutu. Quoi.
Tu vois ouais, et c'est, ouais. C'est un cas avéré que dans les grandes boîtes de la tech, il y a des espions d'autres pays. C'est assez clair. Je
veux dire, mais la question, c'est la bonne question, ça, c'est de se dire OK, ça arrive, mais qu'est-ce qui arrive dans les autres? Parce qu'on pourrait se dire. Jusqu'à maintenant, ce qu'on a vu, c'est que l'open source, oui, ce genre de choses arrive, mais ça arrive moins fréquemment qu'ailleurs. Et on est limite plus protégé. En tout cas, c'est ce que l'histoire, les 20 dernières années ont montré. Donc oui, ça arrive, mais si ça arrive là, imagine où est-ce que ça peut arriver aussi.
Oui, et puis d'ailleurs, je suis sûr qu'effectivement, si on creusait 5 minutes, on trouverait beaucoup de cas comme ça.
Tu as des gens qui cherchent, hein, donc je pense que ce n'est pas aussi évident que ça. Mais oui, c'est sûr qu'il y en a d'autres. C'est ça le truc. Et la question, c'est comment est-ce que tu les découvres et comment tu mets en place des systèmes qui sont un minimum robustes pour l'éviter. Par exemple, est-ce qu'il faudrait pas dire, les packages qui vont, tu vois, genre Linux et ces packages qui sont downstream, il y en a beaucoup, mais il y en a pas non plus des millions. Donc, tu pourrais imaginer que les gens qui sont responsables de maintenir ce genre de package, ils ont à un moment un audit de sécurité ou de la même façon que quand tu dois travailler dans certains endroits, t'as besoin d'un background check ou machin. Est-ce qu'on pourrait pas faire quelque chose comme ça? Ou que si.
Ou une espèce d'AI qui vérifie le code pour des raisons de sécurité ou des choses comme ça.
Ça semble être une mauvaise idée.
Une espèce de quality check.
Non, parce que. Le problème, c'est que déjà ton AI devrait être même, enfin de toute façon, tu pourrais juste t'arranger pour avoir un software qui passe les checks de l'AI, parce que l'AI ne va pas être infaillible. C'est des choses qui sont tellement compliquées, qui peuvent être tellement masquées. Enfin, je vois pas, ça me semble pas être une solution fiable. Le truc qui me semble mieux pour mitiguer le risque, c'est quelque chose comme tu t'assures que les gens, tu fais un minimum de background check sur les gens qui font ce genre de truc. Parce qu'à un moment, les attaques, de toute façon, c'est que des nation states qui peuvent faire ça. Donc, tu limites un peu la casse en faisant ce genre de truc. Quoi.
Bon, et puis après, c'est vrai que c'est pour ça qu'on te donne toujours la clé des packages que tu installes. Parce que le truc, c'est toujours. Toi, tu as l'impression d'installer un package, mais quelqu'un au milieu a pu rajouter un truc. Donc, chez nous, typiquement, il y a des trucs qu'on installe que sur le réseau parce que tu veux être certain que toi, tu n'installes pas ça d'ailleurs, tu n'installes pas ça. Enfin, il y a plein de façons aussi d'injecter. Là, ils l'ont vraiment injecté à la source, mais c'est vrai qu'il y a plein de façons d'y arriver. Puis, d'ailleurs, sur Wikipédia, Supply Chain Attack, il y a plein de cas, hein, comme on pensait. Donc. Mais super intéressant et ça ouvre les yeux. C'est juste qu'effectivement, tu dis, bon, ben, ça va toujours être là, ça. Et puis, ça permet de regarder le monde un peu différemment. Excellent, quoi. Est-ce que tu as d'autres choses là-dessus ou est-ce qu'on avance?
Non, pas spécialement, mais je pense que l'histoire valait le coup, non?
Ouais, mais vraiment, quoi. Bon, passons peut-être, alors, pour la suite de cette émission, plutôt, allez, on va pas dire à la partie inspiration, allez, on peut le dire. Tu nous proposes, Baptiste, aussi un bouquin qui s'appelle « The Anxious Generation » de Jonathan Haidt. Jonathan Haidt, on en avait parlé déjà plusieurs fois, si vous écoutez Nip Tech tout le temps. On avait parlé de « The Righteous Mind », c'est pourquoi les gens sont divisés par leur compas moral, on veut dire, entre les conservateurs et les progressistes, par exemple. Mais bon, il a fait plein de trucs, c'est vraiment quelqu'un de fascinant. Et là, son cheval de bataille depuis quelques temps, c'est l'impact principalement des réseaux sociaux et des smartphones sur les adolescents et les adolescentes en particulier. Voilà, c'est vrai que je trouvais que c'était un super thème, et je te laisse peut-être nous dire ce qui, toi, t'as marqué là-dedans, et puis qu'est-ce que ça veut dire pour le monde de la technologie.
Ouais, en fait, je voulais surtout en parler parce que c'est une personne qui est très médiatique, et donc le fait qu'il sorte un bouquin, tu vois, même si il y a aucun des sujets qui sont vraiment nouveaux, il y a aucune étude qui est nouvelle, et je veux dire, il a un Substack, Jonathan Haidt, qui s'appelle After Babel, et qui en fait dit qu'il y a déjà beaucoup du contenu dont il parle dans le livre. Mais je pense que ça valait le coup un peu aussi de prendre ça comme c'est un peu souvent ça les booktours, tu vois, de prendre ça un peu comme événement pour faire un point sur le sujet. Et en fait, ce qui est vraiment intéressant, je trouve, c'est que donc dans les notes de l'émission, il y a à la fois donc le livre et il y a aussi une critique du livre dans Nature. Donc Nature, c'est un journal scientifique, c'est très sérieux, tu vois. Et en fait, ce qu'ils disent dans la critique du livre, c'est que il y a la thèse de Jonathan Haidt qui semble plausible, tu regardes un peu ses charts et machin et tout, il fait une bonne histoire, tu vois, t'as envie d'y croire, et je pense qu'on a tous, tout le monde, enfin, c'est un sujet qui dans la société est assez accepté. Quand tu dis, les réseaux sociaux, les smartphones ont une mauvaise influence sur les enfants et sur les adolescents. Et en fait, ce qu'on dit après, c'est qu'en fait, il y a juste aucune évidence de ça. Scientifiquement, on n'arrive pas à le prouver vraiment. Il y a plein d'études qui ont été faites, on peut imaginer, si t'arrives à le prouver, c'est vraiment, tu vois, t'es là, tu vois, comme professeur, mais le fait est qu'on n'arrive pas à le prouver. Et donc, je trouve que c'est à la fois intéressant parce que c'est un peu le mélange entre on a une intuition qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a des chiffres qui te montrent que quelque chose ne va pas, parce que clairement, il y a notamment aux États-Unis, je pense en Europe aussi, je ne peux pas dire de bêtises, mais aux États-Unis, en tout cas, c'est très clair, tu as une forte progression des problèmes de santé mentale chez les jeunes filles, notamment, chez les adolescentes, notamment depuis la deuxième moitié des années 2000, donc depuis 2005 après. Donc, qui correspond à peu près à quand les smartphones sont arrivés. Donc, il y a quelque chose, il y a cette histoire qui est bonne, tu vois, t'as envie d'y croire parce que ça pourrait être une bonne explication. Enfin, on peut s'imaginer que les réseaux sociaux soient néfastes. Enfin, c'est beaucoup de choses qui font sens, mais au final, on n'arrive pas à le prouver. Et je trouve que c'est vraiment intéressant parce que d'une part, ça te demande, OK, quel est le niveau d'évidence qu'on veut? Est-ce que c'est la meilleure approche? Parce que pareil, ce qu'elle dit dans l'article très justement, c'est, OK, tu vois, ce que quelqu'un te dirait souvent, c'est, bon, le risque, il y a un risque, et même si on n'est pas sûr à 100% et qu'on n'arrive pas à avoir la preuve, on devrait quand même s'attaquer à ça parce que c'est un problème, et peut-être, et même si c'est pas sûr à 100%, il y a quand même suffisamment d'évidence. Le problème, c'est que si tu fais ça, si ça se trouve, en fait, tu tapes à côté, et ça se trouve, la vraie cause, elle va pas être solvée en s'attaquant à, OK, on interdit les réseaux sociaux au moins de 18 ans, ou on fait ceci, cela. Donc, je trouve que c'est vraiment un problème qui, sociétalement, est intéressant et qui tombe un peu dans ce narratif qu'on avait aussi beaucoup pendant le Covid. On parle peut-être un peu moins ces temps-ci, mais OK, quelle est la place de la science et de l'évidence scientifique, tu vois, dans la société? C'est comment est-ce que on a des problèmes compliqués et comment est-ce que, à l'échelle de la société, on réagit à ces problèmes-là en essayant de se baser sur les facts et sur la science?
C'est vrai que c'est intéressant, peut-être pour donner quelques chiffres, hein, parce que, comme tu dis, il le dit, mais un qui est. Que lui commence ou cite souvent, c'est les épisodes dépressifs importants, majeurs, chez les moins de 18 ans, donc 12-17 ans. Ce qu'il voit, c'est que jusque dans les années 2011, chez les filles, c'est autour de 12-13%, donc c'est déjà beaucoup, hein, je veux dire, chez les garçons.
Juste des filles qui ont un épisode, qui peuvent avoir un épisode dans l'année.
Dans l'année, ouais, exactement, ouais. Donc dans les 12, ouais, dans l'année passée, quoi. Et puis les garçons 5%. Et quand on regarde en 2000, alors la période Covid qui est évidemment la pire, mais 2021-2022, on est à 30% chez les filles et puis 11% chez les garçons. Donc c'est vrai que ce que tu dis qui est intéressant. Et puis si on regarde les données qu'il cite, c'est que c'est pas sur la constatation de cette épidémie finalement de soucis au niveau de la santé mentale qu'on n'est pas d'accord, mais c'est vraiment la discussion, c'est qu'est-ce qui est causalité et qu'est-ce qui est corrélation. Ouais. Simplement, voilà, ça apparaît en même temps. Et alors lui-même évidemment est conscient de ça, et après vous savez qu'il faut aller lire, mais il estime avoir des études qui montrent qu'il y a plus que corrélation. Donc il dit évidemment, c'est pas qu'il y a pas pensé, quoi. Oui, par contre, évidemment après, ben on peut, c'est difficile de se mettre d'accord. Et c'est vrai que l'impact, il est important en termes de, si tu veux, nous, moi je dis souvent à mon équipe, je veux faire du data driven policy making. Mais c'est exactement ça. Toi, on va te proposer un truc auquel tu as envie de croire, d'une part, parce que c'est une explication simple, un problème complexe, ce qui déjà, bon, peut-être que tu dois me mettre la puce à l'oreille, mais qui est bien argumenté, toi. C'est pas juste que le gars il dit je trouve que, toi, il y a vraiment de quoi. Donc t'as raison. Comment est-ce qu'on utilise ça typiquement pour réglementer?
Moi, en tout cas, je l'ai écouté. C'est marrant que tu l'aies choisi comme news, parce que j'ai écouté sur un podcast que j'adore, que je suis bien, qui s'appelle Conversation with Tyler, qui est un prof économiste, hein, pas un ingénieur un peu tech, mais plutôt économiste, qui interviewe vraiment beaucoup de gens. Et il pose des questions, mais beaucoup, beaucoup de questions. Puis c'est un peu des rapid questions comme ça. Et justement, il a interviewé Jonathan Hyde la semaine dernière, et puis j'ai écouté l'épisode. Pourquoi? Parce que ça m'intéresse, parce que moi, je suis assez anti-smartphone pour mes enfants. Et je vais vous donner des chose assez simple, mais mes enfants n'ont pas de smartphone, et je vais essayer de faire en sorte qu'ils aient le plus tard possible. Et mes deux enfants lisent des livres, dont mon fils de 7 ans et ma fille de 10 ans qui a lu tous les Harry Potter, tous les trucs. Et je suis désolé, mais quand on est sur la plage, et puis par exemple, ben voilà, quand j'étais à l'hôtel à l'île Maurice, je voyais des gamins toujours sur leur smartphone, toujours en train de regarder l'addiction. Et mes gamins qui jouaient et qui lisent des bouquins. Ça ne veut pas dire qu'ils sont jamais sur mon smartphone quand je leur le donne, mais très très rarement. Donc moi, en tant que parent et en tant que parent qui pense ça, j'ai tendance à vouloir croire à Jonathan Hyde, mais à 115%, quoi, parce que ça va dans mon narratif que je me suis créé en me disant que de toute façon, je pense pas que vu. Mais après, ce qui est intéressant, c'est la preuve. Qu'est-ce qu'est une preuve? Parce que, ou comment on analyse la preuve, ou combien de preuves faut avoir. Et je vais vous donner là un exemple sur les psychédéliques, que je connais quand même assez bien pour avoir bien collaboré avec Alps. Et pendant des années, des études montraient ci et ça et ça et ça. Mais le nombre d'études qu'il faut faire pour prouver le contraire, et même, ben voilà, elles sont pas si grandes, elles sont sur 12 personnes, 15 personnes, 20 personnes. C'est très, très difficile. Donc, d'avoir un consensus sur qu'est-ce que vraiment et où est la vérité, c'est difficile. Moi, je trouve qu'en tout cas, il pousse le débat bien loin et il va haut. Et ce que j'aimais dans son explication, c'est qu'il dit pas que c'est le smartphone le problème. Et ça a été un gros haha moment pour moi. Il dit que c'est les social media. Et il dit que les social media devraient être légales normalement à partir de 16 ans ou à partir de 16 ans. Sinon, tu devrais avoir l'autorisation des parents. Et on devrait forcer toutes ces boîtes à faire ce genre de choses afin qu'il n'y ait pas trop de gens qui soient dessus avant 16 ans. Et je trouve que ça m'a vraiment été mon moment de dire, normalement, je trouvais qu'il fallait faire tout un temps attention au smartphone. Mais non, c'est pas seulement ça, c'est surtout les social media qui apportent ça.
Est-ce que, parce que bon, vous savez que ma compagne Caroline est psychologue. Et alors, elle observe ça aussi, hein, de manière anecdotique. De nouveau, c'est pas une preuve, mais pour elle, c'est complètement cohérent. Et puis, c'est en ligne avec ce qu'elle entend en consultation. Toi, c'est ce que les gens lui disent. Mais typiquement, c'est pas que les social media, mais c'est aussi beaucoup des dégâts de Tinder. Parce que ce côté consommation des relations humaines, quand t'es jeune, c'est en fait, c'est très difficile à gérer. toi. Tu dis donc, mais je sais pas s'il en parle et je sais pas si ça vient après toi. Là, on parle 12-18 ans. Alors, je sais pas à partir de quel âge.
Considère...
trop loin de tout ça.
Ouais. Tu vois, si considère à partir... social media, Tinder comme un social media, hein, lui.
D'accord, genre... lui, il met ça dedans.
Ouais. Bah, va, ouais. Comme WhatsApp, ça sera un social media aussi. Hein.
Ouais.
Un truc. Mais moi, ce que je me dis, c'est que ouais, on n'a pas la preuve, mais jusqu'à quand on se rassure de ça? Est-ce que ça doit nous empêcher d'agir? C'est ça? Mais c'est vrai que ça n'a pas le même impact sur tous les gens, comme le téléphone. Il y a certaines personnes, même adultes, actuellement, bon, on a tous tendance un peu à l'addiction, mais il y a certaines personnes qui arrivent à être moins addictes que d'autres. Voilà. Qui arrivent à pas répondre à leur WhatsApp pendant des jours, alors que moi, c'est genre impossible. Genre, ça, c'est fear of not responding, quoi. C'est horrible. Et c'est vrai qu'on n'est pas tous égaux face à cette addiction-là. Donc, voilà.
Mm-hmm.
Mais quand on a des enfants, je peux vous dire, moi j'en ai deux, de 7 et 10 ans, on réfléchit très, très, très différent. Et pourtant, moi je suis un adorateur de la tech, je n'ai jamais donné de téléphone à mes enfants, ni l'iPad tout le temps, mais jamais, jamais, jamais. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils ne jouent pas et tout, mais par défaut, ils ne prennent pas mon téléphone, c'est clair. Et avant de prendre l'iPad, il y a un code et le code, je le change comme ça. Ils ne peuvent pas le prendre comme ils veulent et puis le consommer comme ils veulent. Et c'est évident que je vais continuer à faire ça. Et je pense que, voilà, après, jusqu'à quand je vais tenir, ce que j'entends les parents dire, c'est que 13 ans semble être, 13, 14 ans, ça semble être l'âge où après, c'est hyper dur. Tu dois céder. Pourquoi? Parce que tu as la pression qui t'entoure tout autour de devoir donner le téléphone. Donc voilà.
Ouais. Ou faut créer de la friction typiquement ma nièce, tu vois, on communique via Discord. Déjà ce qui est un truc un peu plus de friction et puis c'est sur une tablette qu'elle a la cuisine donc toi qui est accessible par les parents. Donc voilà, ça permet toi quand il y a vraiment des trucs à dire, tu le fais, mais il y a trop de friction pour que ça soit tellement fun que tu aies envie d'y retourner tout le temps. Donc c'est aussi mais bon, ça c'est voilà, c'est les comment faire. Puis tout le monde a un peu sa sauce et tout le monde trouve des solutions. Mais
tout le monde n'a pas sa sauce, Ben. Justement, c'est là. C'est que nous, on est des technologistes en guillemets, on aime la tech, mais il y a plein de gens qui ne savent pas que c'est problématique et qui savent pas que ça peut être problématique. Et donc ils s'en foutent et qui laissent la consommation des enfants regarder aussi n'importe quoi online.
T'entends rarement ça quand même. Enfin, j'ai rarement entendu un parent. Et bon, je dois dire, je suis pas dans un entourage où, tu vois, je suis encore à la moyenne d'âge où je connais, soit c'est des personnes qui sont de l'âge de mes parents, donc leurs enfants, ils sont partis, soit ils sont plus jeunes et dans ce cas-là, ils n'en ont pas encore, mais j'entends rarement des gens dire, ah non, mais nous, c'est pas un problème, on leur laisse juste l'accès au téléphone ou quoi, de manière libre. Je comprends ces arguments, tu vois, et je dis pas que si j'avais des enfants demain, je leur laisserais accès à n'importe quoi et machin et tout. Mais j'ai quand même l'impression que ça s'explique pas tout, tu vois.
Oui,
que ça, la façon dont la société évolue, et c'est pas qu'au niveau des enfants, tu vois, c'est juste aussi peut-être l'effet que les social media ont sur les adultes, la façon dont les relations sociales marchent, tu vois. Tu vois, par exemple, tu donnais l'exemple de Tinder, Ben. Bah, Tinder, ça affecte beaucoup plus les adultes, et ça affecte aussi, et tu vois, ça affecte la façon dont les adultes, les relations entre les adultes, et indirectement, tu vois, ça donne aussi la façon dont plus jeunes, tu vois, ça montre un peu comment les gens se comportent. Enfin, ce que je veux dire, c'est que ça a aussi une influence qui est plus générale que juste l'outil en lui-même, mais juste la société que ça crée. La société que ça crée, tu vas pas l'influencer. Tu vois, ça va pas être. Tu vas pas avoir une société différente pour les gens de moins de 18 ans, tu vois.
Ce que j'aime avec ton argument, c'est que c'est vrai qu'on dit à l'enfant et le téléphone, mais le parent et le téléphone avec son interaction avec l'enfant. C'est-à-dire, je suis souvent comme un parent, souvent sur mon téléphone, au lieu de m'occuper de l'enfant, donc potentiellement, j'ai moins d'interaction avec lui. Donc, c'est vrai que c'est pas seulement l'enfant, mais aussi tout le système dont le parent qui a peut-être moins d'interaction parce qu'il est trop souvent sur son téléphone.
Oui, mais même de manière plus générale, tu vois, si c'est con, mais si tous les adultes, la façon dont ils se rencontrent et dont ils interagissent, c'est via des apps, via des réseaux sociaux et machin. Ça veut dire que l'idéal et l'exemple que tu donnes, tu vois, en tant qu'adulte ou même que la société donne, tu vois, quand c'est dans des films, dans des livres un peu moins parce que, mais tu vois, c'est la façon dont la société marche. Elle est plus dure pour les enfants pour s'adapter. Tu vois, par exemple, ça pourrait être, c'est plus dur pour toi de te faire une place dans un monde qui est peut-être plus la médiation est faite par la technologie. Ben ça, t'auras beau interdire aux enfants de moins de 16 ans d'avoir accès aux réseaux sociaux, ça va pas changer grand chose, quoi.
Et donc. Ouais. Tu peux penser à plein de choses, hein. Société vieillissante aussi. Toi, voilà. En tant qu'enfant, t'as moins ta place. Parce qu'un autre truc qu'il a écrit avant, qui est intéressant pour montrer de nouveau, hein, je suis plutôt charitable avec Jonathan Haidt, parce que j'aime vraiment bien ce qu'il fait. Le bouquin qu'il a écrit avant, c'est The Coddling of the American Mind, qui est une des grandes, un des gros chevaux de bataille qu'il a, c'est de laisser les enfants se gérer eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il dit, une des choses qu'il dit, c'est que le style de parents, parce que c'est des parents plus âgés, parce qu'ils ont tendance à avoir qu'un seul enfant, puis parce qu'on est dans une société qui est pas prête à accepter le risque. Ouais. Il dit typiquement, c'est à 5-6 enfants dans un parc, il faut les laisser jouer ensemble et puis régler les problèmes entre eux. Donc, s'il y en a un qui tombe, s'il y en a un qui tape sur l'autre, d'abord, ils gèrent entre eux. Évidemment, il y a un adulte à un moment donné aussi, il faut, mais que si tu as tout le temps un adulte qui est là, tu leur donnes pas les outils pour se développer vraiment. Et puis, justement, ça va créer des faiblesses plus tard. Donc, lui-même dit pas non plus que c'est 100% ça. Hein. Je pense que c'est important de voir ça. Mais c'est que la question, c'est, bah, mais du coup, combien? Parce que je suis d'accord. Si tu dis, bah, si c'est 2% du problème, bon, bah, peut-être qu'il faut s'intéresser à d'autres trucs.
Tout à fait.
Mais, et ça, je pense qu'effectivement, à quantifier, ben, bah,
c'est vrai que c'est difficile, mais je vous encourage vivement à écouter ce podcast si ça vous intéresse. On a mis le lien dans l'émission de Conversation with Tyler, parce que lui, il est justement de l'autre bord, de justement dire c'est pas vrai, les mobiles, moi je parle à des gens de 16 ans, ils sont incroyables, ils sont créatifs, ils sont pas du tout anxious, et donc et que c'est pas forcément ça. Donc il va vraiment dans la direction inverse, et c'est deux professeurs qui se respectent, et donc il y va, mais cache. Donc il y a le clash des deux idées qui sont vraiment, vraiment intéressantes. Et moi, ça m'a fait aussi remettre un peu l'église au milieu du village, parce que moi, je suis beau extrême sur l'autre côté, hein, je vous dis. Même que j'adore la tech. Donc, ça m'a remis au milieu un peu, et m'a refait réfléchir que justement, le problème, c'était peut-être pas que le téléphone, mais les réseaux sociaux, et puis il fallait. Et franchement, à écouter. Mais c'est un bon débat, parce que ce débat, il peut avoir un gros impact sur comment on va gérer les réseaux sociaux dans le futur. Est-ce qu'on va
est-ce que tu as envie de coller un casque sur la tête par après?
Tout à fait.
Parce que si maintenant on est malade à cause de ça et que c'est avéré, peut-être qu'il faut qu'on. Alors autant je suis aussi d'accord que c'est cool, et puis un jour ou l'autre on en aura un. Mais ouais.
Mais alors moi j'ai une question, et puis une question un peu plus technique pour vous, parce qu'il y a, on se dit bon bah alors on va edge gater, et actuellement il y a déjà des edge gates mais qui ne fonctionnent pas. Donc vous qui êtes un peu plus technique, est-ce que le edge gate fonctionne pas parce que on n'a pas mis en place une vraie solution, ou c'est parce qu'une solution technique serait très difficile à mettre en place pour edge-gater les jeunes?
C'est très dur. Tu peux faire mieux qu'aujourd'hui, ça c'est sûr. Tu vois, tu pourrais dire, ah, si t'es vraiment une grosse plateforme, tu vois, genre type Snapchat, Meta, Instagram, c'est vraiment très gros. Tu peux imaginer mettre des obligations et machin et tout. Maintenant, le mettre de manière générale sur l'internet, et c'est un peu, j'ai du mal à voir ça.
Je sais pas si c'est si dur, mais j'ai l'impression que c'est pour plein de bonnes raisons que c'est pas forcément où on veut aller. En Suisse, vous vous rappelez, on a parlé de ce projet d'identité électronique, le EID, qui va arriver, hein. Tôt ou tard, bon, c'était un peu repoussé, mais mettons qu'on l'ait, tu pourrais prouver de manière assez officielle ton identité en ligne, et ça créerait de nouveau une friction assez colossale, parce que pour les enfants, ça serait quand même les parents qui devraient le faire, etc. Puis tu pourrais être, la question qu'il y a, c'est est-ce que on veut ça? Parce que oui, c'est t'entends, puis tu dis, ah, c'est cool, on aimerait ça, mais toi, où tu t'arrêtes, quoi?
Mais moi, je voudrais edge-gater, mais avec l'autorisation des parents. C'est-à-dire, alors, ben, c'est tout simple. Moi, je t'imagine comment j'imagine le truc. J'ai 14 ans, je veux aller sur downloader l'app de WhatsApp. Alors, j'y vais. Je download, mais à un moment, je dois avoir.
J'ai plus que 14 ans sur le petit bouton, et tu la download.
Okay. Il va perdre. Non, mais à un moment, je sais pas comment, mais justement, on dirait que t'as 14 ans. Si tu le veux, tu dois avoir la signature de tes parents. Et tes parents, ils devraient signer.
Comment tu sais?
Ça veut dire que n'importe qui télécharge WhatsApp doit être identifié comme ayant plus de 14 ans.
Et souvent, ils le téléchargent avec le login de leurs parents, l'Apple login de leurs parents.
La carte de crédit qui peut te donner ça. Ça peut que être une solution étatique type EID. C'est le seul truc qui, c'est le but de l'État, hein, c'est d'avoir cette relation de confiance que tu crées. Mais
ça serait une carte d'identité digitale que t'obligerais, un peu comme les Chinois ont. Les Chinois voilà. ont ça.
Ouais, et, est-ce que c'est ce que tu veux?
Ouais, c'est ça. Fais attention à ce que tu veux, toi. C'est, parce que oui, bien sûr, ça résout un de tes problèmes.
Oui. De l'anonymité sur Internet. Ça, c'est clair, ça résout ce problème d'anonymité. Mais ça en fait créer des conflits aussi, comme on sait. L'anonymité D'accord. permet de poster, même si on est dans un pays où il y a une énorme surveillance.
Ouais, et puis après, tu vas toujours sur l'autre outil. Tu as toujours un outil développé, voilà, l'île Maurice, tu vois, qui est pas soumis au truc européen. Donc, il faudra interdire sur l'App Store, du coup. Et puis, faudrait plus permettre de siloader des apps parce que comme ça, tu as un tiers qui regarde. Et puis, toi, je veux dire, alors tu peux dire, oui, si vraiment tu le rends assez pénible, OK, ça sera la marge de la marge qu'il fera.
Marge. Mais, tu vois, un peu comme le VPN.
Est-ce que tu es en train de...
Ça marche avec le VPN. Parce que
si tu dis, oh, vous pouvez avoir Instagram que si vous installez un VPN, je pense que ce serait pas un gros obstacle.
Eh ben, je te dis que ça l'est. Parce que moi, je le vois dans des pays comme la Chine, où tu es obligé d'avoir un VPN pour pouvoir downloader certaines apps, et ça limite une grosse partie des downloads.
Tu penses que tu as envie d'être vu en Chine comme quelqu'un qui installe un VPN?
Ouais, c'est
plus non, simple. Je ne vous dis pas ça, mais je vous dis que techniquement, c'est possible. Justement, il y a aussi
oui,
ça.
Mais les gens ne sont pas cons. Parce que, OK, peut-être, toi, on peut savoir que tu as un VPN. Ah, du coup, on sait plus ce que tu regardes. Mais le simple fait d'avoir un VPN, tu es suspect, toi.
C'est vrai. Mais donc, tu peux l'utiliser pour ces raisons-là. Souvent, dans le business, ils ont le droit. D'ailleurs, j'aurais posé la question. Parce qu'il y en a certains qui l'utilisaient. Donc, j'aurais dit, mais vous êtes pas. Non, mais tu vois, parce que tu utilises quand même un VPN pour protéger au niveau sécurité. Quand tu es dans
oui,
des
mais c'est pas ton smart. Effectivement, c'est pas le smartphone que tu achètes pour toi, toi. Donc, oui, il y a des gens qui ont tous ces trucs, puis qui comprennent, puis qui, ça peut être crédible, etc. Mais je comprends qu'après, si t'es juste toi, tu dis, non, mais si c'est tout ça pour aller sur Facebook, toi. Bof, quoi. Je connais toi vivant heureux, quoi, plutôt.
Et pour revenir à la question des applications, au final, tu vois, tu veux cette législation et tu dis, OK, il faut ce edge gate. À quel point est-ce que c'est une législation qui a un coût très fort en termes de sécurité et en termes de vie privée pour les citoyens. Et à quel point c'est efficace? C'est plus efficace que juste les parents surveiller, être sur le dos des enfants et vérifier qu'ils n'ont pas. Je ne sais pas à quel point c'est vrai, mais.
Je te donnerai l'idée de la cigarette. Si on se dit, on part du principe que c'est néfaste, hein. Peut-être ça l'est pas, mais on part du principe que ça l'efface et qu'on veut qu'une société à 16. Ben, on a fait la même chose avec la cigarette et la boisson. Et comment on a fait? On a fait que si tu me vendais des cigarettes et que j'avais 16 ans, c'était toi le coupable. Et quand tu retournes le tapis sur la culpabilité, ben, tu dis, ben, c'est à Apple, c'est à celui qui met en place l'App Store. Je peux te dire que là, ça va commencer à sérieusement freiner l'utilisation par les plus jeunes. Oui, et ils vont devoir être vraiment responsables de ce qui des gens qui sont sur la plateforme.
Ouais, mais dans l'autre sens. Si maintenant tu as j'ai du mal à imaginer que si un enfant il a un téléphone, il a ces applications là, tu vois. Et s'il a un téléphone, globalement c'est que les parents l'ont laissé. Tu vois, j'imagine du mal à imaginer, tu vois. Et donc encore une fois, c'est un peu, je sais pas. J'ai l'impression que c'est une solution qui d'ici paraît intéressante parce que tu te dis bon, il y a un problème, c'est une solution, mais en pratique. Je veux dire, les parents, ils consentent aujourd'hui déjà en donnant un téléphone à leurs enfants, tu vois.
Pas tous, regarde-moi.
Oui, mais voilà. Ouais. Oui, mais voilà. Je veux dire, toi, t'as pas besoin de age gate WhatsApp, tu vois, concrètement.
Non. Mais en tant que parent, ben voilà, dans 3 ans, ma fille a 13 ans, donc voilà, ou 3, 4 ans, je vais être face à ça. Et j'aurais bien voulu qu'il y ait une solution qui me permette de dire, bon, ben voilà, à l'école, ben, ils sont pas tous sur les social media. Parce que je parle à ma sœur, son enfant, il est plus. Il a maintenant 13 ans, il a il a un téléphone. Ben voilà, c'est ça. C'est qu'après, ils utilisent Snapchat parce que ils l'utilisent pas comme un réseau social, mais pour chatter. Comme ça, c'est pas WhatsApp et puis les parents ne checkent pas et ils sont pas dessus. Et il y a plein de choses comme ça. Et donc après, ben tout se fait en ligne.
Alors, petite quiz pour vous. Répondez comme vous sentez. Combien aux États-Unis, combien de pourcents d'enfants ont un téléphone à 10 ans, à 12 ans et à 14 ans, Mike? 10 ans, 12 ans, 14 ans.
Aux États-Unis, 10 ans, 12 ans. OK. Alors, je dirais 10% en 10% à 10 ans, je dirais 30% à 12 ans, et c'est 14 ans, je dirais 50%.
OK. Et
moi,
Baptiste,
double ce que Mike a dit à chaque fois.
Il va dire 100%. OK. Donc, voilà. Moi, je dis.
Et encore, voilà, vous n'êtes pas assez parce que toi, tu as les 10% selon, alors c'est Common Sense Media, mais c'est le China Mild Institute qui le cite. Non, c'est 42% à 10 ans, à 71% à 12 ans et 91%, c'est ce que tu disais, c'est le, il y a le seuil à 14 ans. À 14 ans, En gros, si tu l'as pas, c'est que tu peux pas. Ou que, voilà quoi. Ouais. Donc c'est, bon, voilà. Mais de nouveau, après, qu'est-ce que toi? Mais c'est vrai que toi, c'est intéressant de dire parce que quand on regarde autour de soi, bah après, tu auras tendance, toi, typiquement, tu fais gaffe, donc tu sous-estimes parce que tu dis, mais voilà, parce que tu fais attention et tout. Donc c'est vraiment dur hein, de juger comme ça. Ouais. Et c'est là où le bouquin de Jonathan Haidt, au moins, il a ce mérite-là. Il est intéressant et il est très orienté données, quoi. C'est pas qu'il te voilà, après les explications de nouveau, mais ça vaut vraiment la peine de regarder, de lire pour voir les données qu'il offre. Et ouais. En tout cas, je te remercie, Baptiste. Je trouve que c'est un super thème. Je suis sûr que dans la communauté, vous aurez plein d'idées et plein de peut-être d'exemples ou de contre-exemples. Donc, venez sur Signal où on discute de manière tranquille de tous ces sujets sans spammer. Voilà, c'est une très bonne communauté. Et venez nous dire si vous avez des choses qui vous intéressent pour avoir le lien, si vous n'avez pas le lien Signal, un petit mail à info@mintech.com et puis ça suffit pour recevoir magiquement un lien.
La dernière chose que je voulais dire, c'était parce qu'on parlait de cette idée de edge gate machin. Bon, je crois qu'on a vu que j'étais pas trop fan. Par contre, j'avais entendu une mesure aux US qui était un peu, qui je trouvais plus intéressante sans être trop. C'est pas non plus ça va pas résoudre le problème, mais c'était de mandater que tous les services aient un contrôle parental intégré. Donc en gros, tu dis, ok, si t'es un WhatsApp, un machin, Facebook et tout, t'es obligé d'avoir un système de contrôle parental. Comme ça, au moins.
Si tu veux, tu peux. Quoi.
Voilà, comme ça, au moins si les parents ils veulent, ils peuvent. Tu vois, ça parce que
ça soit simple dans l'app, et puis que tu puisses vraiment le faire, que ça soit.
Tu vois, ça me semble être. Tu vois, encore une fois, ça nuit pas à la vie privée de n'importe qui. Tu vois, si les parents veulent pas l'utiliser, ils l'utilisent pas. Ça laisse la liberté à tout le monde, mais ça aide quand même parce qu'il y a quand même cet aspect où globalement tout le monde est sur WhatsApp. WhatsApp, ils n'ont pas intérêt à mettre un contrôle parental eux-mêmes. Je veux dire, t'as bien dit, toi, la raison pour laquelle les jeunes utilisaient WhatsApp et de base, c'était toujours parce que, c'était pas Facebook, c'était pas le truc de cran, machin, c'était le truc auquel les parents n'avaient pas accès. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, les personnes de plus de 30 ans, je pense pas qu'elles utilisent beaucoup WhatsApp, Snapchat, pardon, parce que c'est un peu underground, voilà, c'est un peu l'idée. Ouais. Et donc, je trouve qu'avoir
bonne idée. Et ça rend, au lieu de l'avoir dans un truc d'Apple où c'est compliqué, même pour quelqu'un qui connaît, tu vois, moi je suis allé voir, j'ai vu, c'est pas si facile. Ben là, tu le fais pas comme ça, c'est au niveau de l'app. Et puis, parenting by design.
Ouais, il faudrait les deux, tu vois, dans l'absolu. Il faudrait sur Snapchat, tu vois, un truc qui te permette, toi en tant que parent, de vérifier que.
Ouais, voilà, de bloquer les groupes, d'avoir un reporting facile.
Ouais, voilà. Et il faudrait sur l'iPhone pour pas que demain ils puissent installer la seule application qui a pas de contrôle parental, quoi, tu vois.
Pas mal. Il faut un peu les deux. Et ben voilà. Voilà, je voulais des solutions. Voilà, j'en ai une. Je commence à aimer. Bon, plus de 3 ans à tenir.
Exactement, avant de faire partie du lot. Bon, ben merci beaucoup. On va continuer dans la partie inspiration. Peut-être je voulais juste revenir. Je vous ai parlé d'un bouquin qui s'appelle How Life Works la semaine passée. Et puis, j'arrive au bout. Donc, vraiment, je recommande toujours autant. Mais il y a juste un exemple que j'ai trouvé bien cool à la fin, qui est vraiment là, voilà, de où on va. Et c'est un exemple de robot vivant. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un robot vivant? C'est un robot qui est fait de cellules de grenouilles, de deux types de cellules. Un, c'est des cellules de peau et l'autre, des cellules de corps. Donc, un, ben voilà, ça permet d'avoir une structure et l'autre, des cellules de cœur. Donc, le cœur, ça permet d'avoir quelque chose qui a un dynamisme, donc qui permet le mouvement. Et ces robots, de manière assez incroyable, sont faits à la main. Donc, ça prend plusieurs heures à en faire un. Ils mettent ensemble les cellules. Ils ont le truc qui est barge. Je vous mettrai un lien vers la vidéo. C'est qu'ils ont trouvé comment faire ces structures à travers des itérations vraiment de toutes les configurations possibles par ordinateur. Donc, ils ont simulé vraiment à force brute pratiquement comment faire ces cellules. Et en fait, elles sont capables maintenant de communiquer entre elles. Et de faire des tâches en commun. Alors c'est pas c'est simple hein, ce qu'elles font, mais typiquement ils pensent que c'est des cellules qui pourraient être utilisées pour aller amener un médicament à une partie précise du cœur ou pour par exemple du cœur du corps ou par exemple d'aller chercher du plastique dans l'océan si t'en mets assez. Bref, ça pose plein de questions. Wow. C'est vraiment fascinant en termes de qu'est-ce que c'est la matière vivante, c'est-à-dire que comme c'est des cellules, elles peuvent se réparer, guérir si elles sont blessées, et c'est vraiment entre deux. Donc il y a ce côté un peu robotique informatique, mais ça serait vraiment pas faire honneur que de limiter ce type de robot, je sais même pas comment l'appeler à ça. Ça s'appelle Xenobot. On vous mettra le lien dans l'émission. Et puis, il y a une petite vidéo qui explique en 5 minutes ce que c'est. Mais derrière cette vidéo, si on commence à creuser, c'est absolument fascinant, quoi. C'est vraiment les questions que ça pose, comme on discute là, éthique également, mais sur ce qu'est la vie, sur qu'est-ce que sont les composants qu'on comprend, qu'on comprend pas. Bref, moi, ça m'a explosé la tête et je me suis dit que c'était une bonne façon de revenir sur ce bouquin, vraiment très cool.
Ah bah, je vais la regarder, la vidéo. Elle a l'air très intéressante.
Oui, elle fait 5 minutes, donc elle est vraiment accessible.
Exact. Donc, ça va être cool. Moi, au niveau inspiration, j'étais un peu en vacances. Donc, quand je suis en vacances, j'essaie d'un peu lire des choses un peu différentes, même de la fiction. Parce que je suis très non-fiction normalement, hein, j'ai même lu de la fiction, mais je suis en train d'écouter un bouquin que j'aime bien, qui est assez connu, hein, de Michael Singer, qui s'appelle The Untethered Soul, qui parle de l'âme, et puis de comment faire face, à la vie en général. Mais c'est assez intéressant parce qu'il est vraiment connu comme livre, en tout cas aux États-Unis, et puis très apprécié. Mais il a un angle. Souvent, c'est dans les explications que fait la différence, hein, un audiobook ou un livre. Et ça, c'est vraiment un livre qui est bien, qui parle de l'âme, qui parle de notre esprit, de la possibilité de comment le manager, et puis comment entre guillemets être heureux, quoi. C'est ça le concept. Mais un livre très très bien fait et pas superficiel. Donc à conseiller à ceux qui veulent en savoir plus sur leur âme. C'est un bon début, je dirais, sans être forcément d'une religion ou d'une autre. C'est une bonne explication.
Untethered Soul. J'aurais su qu'il était américain, même si tu n'avais pas dit son nom, parce que si tu vas sur la page Audible, tu vois que c'est un bouquin qui marche bien, qui a l'air vraiment cool. Et puis, dessous, tu vois qu'il a fait The Untethered Soul at Work. Ouais, Living exact. Untethered. Tu vois qu'il est en train de faire sa franchise.
De milquer le machin. Ça me dérange, ça. Ça me dérange à chaque fois. Je trouve que ça décrédibilise l'œuvre, quoi. Et je trouve ça dommage, mais en même temps, je les comprends. Parce qu'ils font quelque chose de bien, et puis, mais au moins des mecs comme Tim Ferriss, ils s'abaissent pas à faire ça. Le 4-hour. Il a quand même fait 4-hour week, 4-hour chef, et puis après il a arrêté. Mais je trouve des fois milquer un peu trop, ça fait
drôle, quoi. Mais bon, en tout cas, ça donne quand même envie de le lire, et je l'ai mis dans ma liste des to read, qui évidemment ne se raccourcit pas.
30 000 rating, 4.7,
to wish list.
Et je dois dire un truc sur les livres que j'ai lus, qui est vraiment que j'aime vraiment bien, c'est The Almanach de Naval Ravikant. Je ne sais pas si vous connaissez Naval Ravikant.
Ah, bien sûr, ouais.
Et c'est vrai que j'ai lu ce livre où ils ont repris les petits tweets qu'ils faisaient, les petites pensées qu'ils faisaient, et ils les ont mis dans un livre en les expliquant. Et je trouve que c'est vraiment un très, très beau livre qui s'appelle The Almanach of Naval Ravikant. Et je l'ai pris avec en vacances et j'ai commencé à lire. Notamment, il parle du bonheur, il parle de petites choses comme ça, de petites maximes qui font plaisir. Et franchement, c'est hyper bien écrit. Et surtout, c'est des fois, il y a des livres qui sont dans le zeitgeist du temps. Et puis, il faut les lire. Et Naval, c'est vraiment un de ces auteurs qui a réussi à travers Twitter, hein, à justement à parler à une énorme communauté de gens en petits tweets. Mais là, c'est un peu expliqué en plus développé, ce que j'aimais beaucoup. Donc, un truc un peu non-fiction. Et pour la fiction que j'ai lu, je ne sais pas si vous connaissez Ken Follett. Vous connaissez
les bâtisseurs de cathédrales.
Exactement, The Kingsbridge Novel. Et c'est vrai que la série a 5 livres et il vient de sortir le 5e qui s'appelle The Armor of Light. Et là, ça se passe dans le 17e siècle, entre le 18e siècle et la fin de Napoléon, 1815, en Angleterre, toujours à Knightsbridge. Voilà, dans la série. Mais elle est vraiment bien faite parce que elle parle des problèmes sociaux qu'il y a. Et c'est là que j'ai fait le lien avec la tech. Quand, normalement, il parlait surtout des gens qui étaient dans la création d'habits et qui se faisaient tout manuellement et avec le début des machines. les machines d'abord automatiques, après à vapeur, et l'impact que ça avait, ben voilà, sur la quantité des gens, on réduisait le nombre de personnes qui travaillaient, les conflits sociaux entre les possédants et entre ceux qui possédaient moins, l'impact de la politique qui venait se mêler de ça, où les gens pouvaient pas tous voter, seulement un petit nombre de gens, mâles, à l'époque. Et donc, on voit tous ces problèmes sociaux et ces problèmes de technologie et on se dit, mais ça a toujours existé. Même quand on regarde et on lit un livre comme ça et on les voit, on se dit, mais mon Dieu, les problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est rien en comparaison. Parce qu'ils étaient, c'était énorme, les conflits sociaux, et on parlait en Angleterre. Et c'est assez intéressant de lire un livre comme ça, parce que bien sûr, c'est de la fiction, mais c'est quand même un historien, Ken Follett, donc il se base toujours sur des bons éléments, et à la fin il y a la bataille de Waterloo qui est bien décrite, mais où tu vois que des fois on voit voilà, la victoire tient à rien des fois, mais voilà. Et donc c'est très intéressant, et puis je l'ai bien aimé, j'en ai lu 3 sur 5 jusqu'à maintenant, et puis celui-là c'était un de mes favoris presque.
Ouais, bah écoute, c'est vrai que ça fait plaisir de se rappeler. Ça faisait très longtemps que j'avais pas lu Ken Follett, mais il est fort, quoi. Donc oui. C'était une bonne. C'est vrai que si tu veux t'imbiber d'une période historique sans te dire je vais apprendre, il fait hyper bien, quoi. Donc
un petit truc un peu fiction sympa que je voulais faire. Je sais pas si vous avez regardé ce dernier Netflix, cette série Netflix française qui s'appelle Fury France.
Attention, voilà.
Française, dont Kassovitz, Mathieu Kassovitz est un des auteurs, je pense réalisateur, non, mais producteur, et aussi un des personnes qui jouent, donc des acteurs. Et franchement, top. Franchement, déjà, c'est fait en France, mais j'ai trouvé avec de l'action, avec un plot, avec un truc sympa, avec de la violence, hein, mais drôle en même temps. Et Mathieu Kassovitz, c'est incroyable, quoi. C'est là que tu vois que ce gars, c'était un génie il y a 20 ans, c'est encore un génie maintenant, et il joue extrêmement bien. Et ça fait plaisir de voir une série française vraiment cartonner, et elle cartonne, hein, sur Netflix, parce que on voit, elle est dans le top 10, très, très souvent des séries. Donc, ça fait plaisir de voir que c'est pas que les séries américaines qui ont des succès actuellement. Netflix permet vraiment à beaucoup de séries de plein de pays, dont européens, de pouvoir cartonner. Et ça me fait plaisir à voir.
Ok.
Voilà. Alors, Fury, si vous avez un peu de temps à perdre, il y a 10 épisodes. Si vous avez 10 heures, vous n'êtes pas obligé de les binge-watcher en un coup, hein, mais vous allez presque être obligé. Voilà. Et la citation, je voulais finir avec une citation. Et bien sûr, je me suis dit, bon, ben voilà, je vais choisir une des petites citations de Naval. Parce que je me suis dit, voilà, elles vont dans l'air du temps avec le bouquin que j'avais lu. Alors, elle va la suivante. Elle sera assez rapide à traduire. Ben, t'es prêt?
Ouais, je l'ai. Oui, elle est facile.
If you cannot decide, the answer is no.
Si vous ne pouvez pas décider, la réponse est non. Écoute, c'est un truc qu'on se dit constamment à la maison, chez nous. C'est notre règle. Donc, mais si toi, quand tu commences à hésiter ou de manière plus générale, quand tu commences à compliquer, ouais. C'est non. Je trouve qu'il y a des trucs qui sont une évidence. On a fait ça pour donner un exemple. C'était notre règle, parce qu'on voilà, on a déménagé il y a quelque temps, dans un endroit qui est cool maintenant d'ailleurs, mais on a visité beaucoup, beaucoup avant, et c'était clair. En cas d'hésitation, c'est non.
Oui.
Donc, tu ne commences pas à passer du temps, à te dire, mais ça, non, mais ça, ouais. Puis peut-être ça, non, oublie.
Et tu peux le dire pour plein de choses, notamment pour les maisons, parce que moi, je me souviens quand on est rentré dans la maison dans laquelle je vis maintenant, j'ai tout de suite su que c'était ça. J'ai dit oui, j'ai pas hésité. Mmh. Et dès que tu hésites, ben voilà, c'est la même chose pour les appartements, même chose pour les gens quand tu les engages, même chose quand tu dis je veux voir cette personne, mais je sais pas vraiment, ou quand tu reçois un email d'invitation d'un truc, et puis t'es là, ouais, mais est-ce que je devrais? Mais et te dire ben si je dis ça, c'est que c'est non. Et je trouvais que c'est ce côté d'hésiter et de dire non quand on hésite trop, c'est vraiment une bonne façon de faire. Et ça simplifie la vie. Et je suis assez content que tu le fasses un peu, parce que je trouve que c'est pour ceux qui ont tendance. Alors, il y a des gens qui ont plus tendance à l'hésitation que d'autres, hein. Moi, voilà, j'ai un petit peu moins tendance à l'hésitation. Si je décide, je m'en fous. Et puis, mais je trouve que c'est une bonne règle.
Ouais, tu l'appliques, Baptiste?
Je l'applique pas explicitement, mais en effet, genre, j'essaie de toujours bias pour les choses les plus simples.
Oui.
Et ouais. pas de process. Enfin, tu vois, par exemple, c'est bête, mais tu vois, depuis que j'ai déménagé ici, j'ai un reminder dans mon calendrier toutes les trois semaines. Enfin, ça dépend de quoi, mais de pour faire le ménage, tu vois. Comme ça, je ne me pose pas la question de, oh, est-ce que c'est sale maintenant? Est-ce que, non? Toutes les trois semaines, voilà, systématique, tu vois. Et, c'est beaucoup mieux, tu vois. Simplifier.
Et tu fais encore le ménage, toi?
Mais bien sûr. Et...
Waouh.
C'est méditatif. Et non, en vrai, avec un podcast, c'est bien, c'est tranquille. Et
ah ouais, alors moi, c'est
méditatif.
Moi, je suis comme ça. Je trouve que c'est presque important de le faire, je trouve.
Ah oui.
Tu t'appropries les lieux, tu. Ouais.
Ah, ah non.
Essaye, Mike.
Non.
Essaye. Tu vas voir.
Dans l'hésitation. Les enfants, non. Non, non, mais moi, j'ai jamais fait. Mais c'est ma mère qui m'a donné cette règle. Elle m'a dit, tu veux la paix des ménages? Ne fais pas le ménage. Et donc, tu ne demanderas pas à l'autre personne de le faire non plus. Et j'ai dit, parfait.
J'ai dit, ouais, nickel.
Bon, bah, donc, voilà, c'est comme ça. Mais je suis d'accord que beaucoup de gens pensent que, et trouvent que c'est un moment méditatif. Ou on peut écouter des podcasts, d'ailleurs. Tu as raison.
Plus les podcasts, enfin plus, parce que ça ne me dérange pas de le faire, que c'est méditatif, c'est un peu fort comme terme. Mais oui, c'est pas spécialement une corvée pour moi, en tout cas. Mais pour revenir au truc, c'est vraiment, je suis d'accord que simplifier les choses, c'est pas une question de rajouter des process ou machin, tu vois, c'est au contraire, c'est, tu te remouves des décisions, tu vois, c'est pas le reminder, c'est pas que c'est juste, comme ça, j'ai pas besoin de prendre la décision de, oh, est-ce que je le fais maintenant? C'est juste, voilà. Et ça, c'est, je trouve que ça simplifie beaucoup les choses.
Bon, bah en tout cas, effectivement, dites-nous si c'est une règle que vous voulez ou que vous appliquez déjà avec succès. Ça fait plaisir de passer ce moment ensemble. On espère voilà que vous avez apprécié également. Et puis, on se retrouve dans 2 semaines pour de nouvelles aventures. Profitez bien d'ici là. Ciao, ciao.
Ciao.
Ciao, ciao.